Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, Atos a-t-il encore un avenir? Seul l'État français semble en mesure de le sauver désormais. On verra où on en est la négociation entre syndicats et patronat sur l'emploi des seniors et la vie au travail. Et puis question, comment concilier l'explosion de notre consommation de données Internet et la transition écologique? Va-t-on aller jusqu'à une nationalisation d'Atos? La question se pose inévitablement à la lecture du communiqué du ministère de l'économie hier. L'État construira dans les prochaines semaines une solution nationale de protection des activités stratégiques d'Atos. Tous les intérêts de la France seront préservés. Voilà pour les mots qui ont été pesés du côté de Bercy après une journée de tempête, une de plus pour Atos. Airbus avait annoncé le matin même qu'il renonçait à racheter ses activités cyber. Une étape supplémentaire dans le chemin de croix d'Atos, Céline Cajolis.
L'urgence, c'est d'éteindre l'incendie, me confie un proche du dossier, d'où l'intervention du pompier Le Maire. Si Atos n'est pas acculé d'un point de vue financier, la prochaine échéance est prévue en janvier 2025 et la plus grosse en 2028, il n'en reste pas moins qu'il faut rassurer les 111 000 salariés, dont 10% en France, le marché pour freiner l'effondrement du cours de bourse, consolider la direction générale et aussi limiter les craintes du Comité international olympique, puisqu'Atos est en charge de la cybersécurité pour les JO de Paris. Il faut aussi refaire une revue stratégique et envisager toutes les options. Si ni Airbus ni Thales ne veulent racheter l'activité Big Data et sécurité, il faut peut-être envisager un autre genre de solution. Bercy ne précise pas laquelle pour l'instant, mais confirme qu'elle sera bien française. Il faut aussi voir si, avec d'autres investisseurs, Daniel Kretinsky serait finalement partant pour reprendre les activités les moins rentables. Enfin, il faut discuter avec le pool de 22 banques, dont plusieurs établissements français en première ligne, et qui portent sur la dette de 2,4 milliards d'euros. Et puis surtout, après deux reports, il va bien falloir publier les résultats pour l'année 2023 et éviter tout fantasme supplémentaire sur l'état financier du groupe.
Les informations de Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. L'action Atos a encore perdu 19% hier à la bourse. Au milieu de marchés financiers, tous dans le vert. Le CAC 40 a gagné 0,65% à 8201 points. Le Dow Jones a gagné 0,83%. Le Nasdaq plus 0,39%. En ce moment, le Nikkei à Tokyo progresse de 0,66%. L'euro vaut 1,0867 $. Le baril de Brent est à 87 $. L'État va donc potentiellement se saisir très directement du sujet Atos. Et plus largement, Bruno Le Maire a lancé un appel à Berlin hier à ce que l'Europe mette les moyens nécessaires pour rattraper son retard sur la Chine et surtout sur les États-Unis. Réveillons-nous, dit le ministre français. Appel renouvelé hier soir sur France 5.
Depuis maintenant près de 10 ans, l'Europe a une productivité qui décline. L'Europe a une croissance moins élevée de 1 à 1,5 points chaque année que celle des États-Unis. Donc les citoyens américains sont plus riches et les citoyens européens, eux, ils tirent la langue derrière. Les Chinois ont un modèle économique très clair. Il se résume en un mot, interventionnisme. Les Américains ont un modèle protectionniste. Et que ce soit M. Biden ou M. Trump qui soit élu en novembre prochain, rien n'y changera. Les Américains resteront protectionnistes. Où est le modèle économique européen ?
Autre sujet bouillant, la crise agricole, elle n'est pas éteinte. La FNSEA le fait bien savoir. Le syndicat a été reçu hier par Gabriel Attal et sera de retour à Matignon dès lundi prochain, à la veille de son congrès annuel. Éric Mauban, des priorités se dessinent enfin parmi le flot des revendications.
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, identifie 5 grands blocs prioritaires pour lesquels il souhaite un calendrier et des arbitrages rapides. Le premier concerne l'élevage, avec une accélération du plan qui a été annoncé pour cette activité et qui permettrait de produire davantage ce que nous consommons. Autre bloc prioritaire, les moyens de production, avec notamment le stockage de l'eau et l'usage des pesticides. La FNSEA veut aussi des avancées en matière de compétitivité, avec des mesures fiscales réclamées qui se font attendre. Le syndicat agricole réclame également des facilités de trésorerie avec des prêts bonifiés proposés par les banques ou un meilleur accompagnement financier des entreprises en restructuration. Enfin, un dernier bloc prioritaire, la dignité du métier, avec notamment une clarification attendue des retraites agricoles.
Éric Mauban en direct. Le tic-tac, tic-tac de la négociation sociale du moment sous la pression du gouvernement. Les partenaires sociaux ont jusqu'à mardi pour élaborer un nouveau pacte de la vie au travail. Nouvelle séance de discussion aujourd'hui. Bonjour Zoé Pallier.
Bonjour.
À une semaine de l'échéance, les divergences semblent insurmontables. Premier point de blocage, le CDI senior que propose le patronat.
On aura bien du mal à trouver un compromis sur le CDI senior, soupire un représentant du patronat. L'objectif est d'inciter à l'embauche des plus de 60 ans en assouplissant les conditions de rupture du contrat. Une entreprise pourrait désormais se séparer de son salarié dès qu'il atteint l'âge de départ en retraite à taux plein. Plus besoin d'attendre jusqu'à ses 70 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Un nouveau contrat assorti d'exonération de charges patronales pour le rendre attractif, plaide la CPME. Ça ne marchera pas, le patronat se moque du taux d'emploi, il veut juste récupérer de l'argent, rétorque Jean-François Foucard de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
Alors, l'autre gros point d'achoppement, c'est le compte épargne-temps universel, le CETU, que réclame la CFDT, qui permettrait aux salariés d'épargner des jours de congé pour les poser plus tard dans leur carrière.
Le MEDEF et la CPME sont inflexibles, ils ne veulent pas du compte épargne-temps universel et ne mentionnent même pas ce dispositif dans leur projet d'accord. L'Union des entreprises de proximité, l'UDP, en revanche, y est favorable. C'est un progrès social et un outil d'attractivité, estime son président Michel Picon. C'est aussi une promesse présidentielle. Si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, le gouvernement pourrait donc malgré tout intégrer le CETU à un futur projet de loi.
Zoé Pallier, spécialiste sociale de Radio Classique. Pourrait-on vraiment limiter à 3 gigaoctets les données Internet consommées par chaque Français chaque semaine? Limiter également le streaming vidéo en ultra haute définition. Ces propositions contraignantes, donc, signées de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, font réagir et cela pose le débat. Le numérique est aujourd'hui responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Il faudra donc au minimum responsabiliser son usage qui explose, Eric Kioche.
Télétravail, musique, jeux en ligne, e-commerce, à l'échelle mondiale, l'empreinte carbone du numérique est 2 fois plus importante que celle de l'aviation civile. Vincent Courboulet, directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable.
On veut aller vers un usage de sobriété numérique, alors que la plateformisation de nos sociétés ne nous permet pas d'être raccord avec les urgences climatiques.
Les acteurs du secteur portent une lourde responsabilité. Extraction des métaux rares et fabrication des équipements pèsent pour 78% des émissions du numérique. Si les équipements sont de moins en moins énergivores, on en utilise de plus en plus.
La technologie en appui des usages peut être une solution, mais pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va changer la technologie, donc on va pouvoir se permettre toujours plus d'usages.
Les puces électroniques consomment 80% moins qu'il y a 20 ans, mais leur utilisation a explosé. Smartphones, voitures, électroménagers, enjeu de souveraineté, l'Europe souhaite désormais en produire sur son sol. Le moment d'ouvrir le débat avance Lorraine de Montenay du collectif pour les technologies vertes Green IT.
Que ça soit sur l'épuisement des ressources, sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a une vraie question à soulever. Quel futur nous voulons en fait?
Selon l'ADEME, l'empreinte carbone du numérique pourrait croître de 372% d'ici 2050 si on continue de multiplier les usages.
Éric Kioche, voilà une bonne nouvelle pour les femmes atteintes ou qui ont été atteintes d'un cancer du sein. Elles pourront emprunter aux mêmes conditions tarifaires que tout le monde. C'est le groupe CNP Assurance qui ouvre la voie. Et lui qui est leader de l'assurance emprunteur. Cela concerne donc aussi les crédits immobiliers proposés par d'autres banques. Actuellement, il faut attendre 5 ans après la fin de son protocole de soins pour emprunter sans surcoût. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Cette annonce réjouit Isabelle Huette, directrice de Rose Up, qui accompagne les femmes touchées par un cancer.
C'est une excellente nouvelle. C'est surtout un très bon signe envoyé aux personnes malades de cancer, en espérant bien évidemment que cette disposition puisse s'élargir à d'autres types de cancers dits de bon pronostic, au même titre que le cancer du sein. L'intérêt, bien évidemment, c'est que ça permet de à nouveau se projeter dans la vie et de reprendre un cours de vie normal en achetant un logement, mais aussi en créant ou en développant une entreprise. Maintenant, effectivement, comme c'est un secteur extrêmement concurrentiel, on espère vraiment que d'autres acteurs du marché emboîteront le pas.
Isabelle Huette avec Marine Salaville. Dans l'actualité économique du jour, il y a ce rendez-vous au tribunal de commerce de Bordeaux qui va fixer le sort de 26 magasins régionaux des Galeries Lafayette, ceux qui appartiennent en franchise à l'homme d'affaires Michel Oyon. C'est l'un des derniers reliquats de son empire qui, il y a 3 ans, comptait Camailleux, Gosport, Gap France ou encore la Grande Récré. Michel Oyon a convaincu son créancier, le groupe Galeries Lafayette, de renoncer à une partie de ses dettes. Un sursis qui n'est toutefois pas de nature à rassurer les salariés, comme nous l'explique David Pruvot, consultant chez Team2 Consulting et spécialiste de la distribution.
la situation financière de ce franchisé va être assainie, ce qui va lui permettre théoriquement de réinvestir dans les magasins, parce que la plupart du temps, ce sont des magasins qui sont assez vieillissants, ce qui explique aussi leurs difficultés et leur manque d'attractivité, qui devrait permettre de redégager des moyens financiers pour réinvestir dans les magasins. En tout cas, c'est la contrepartie qui a été négociée en échange de l'effacement de 70% de la dette du franchisé. Pour les salariés, la question, c'est plutôt effectivement ce franchisé et sa capacité véritablement à leur garantir un avenir, même si à court terme, il est entre guillemets préservé.
Et puisqu'on a encore un petit peu de temps, si vous n'êtes pas habitué de cette nouvelle matinale de Radio Classique qui est un petit peu plus longue, je vous signale ce podcast, hein, La France de demain. Ce matin, nous étions en direct à 6h15 avec Charles Yvon, c'est le président du Parapluie de Cherbourg, une entreprise historique, même si... Cette entreprise a été créée après le film de Jacques Demy. Vous pouvez retrouver donc toutes ces bonnes histoires sur la French Tech et sur le Made in France dans le podcast La France de demain sur l'application Radio Classique. Dans un instant, David Abicard.